L'apparition d'Amélia ou l'ange de couleur de neige.
On frappa à la porte de mon bureau de recherche spécialisé dans les investigations portant sur les personnes disparues. M'étant assoupie un instant, je me réveillai en sursaut et invitai la personne à entrer. C'était un homme à l'air mystérieux, d'un âge mûr, qui portait un costume et des chaussures de couleur noire. Je cherchais dans ma mémoire, mais ne me rappelais pas l'avoir un jour aperçu. J'appris, lorsqu'il me conta son problème, qu'il se nommait Jacques Montelier et qu'il possédait le manoir le plus étrange de toute la région. Pour ma part, j'avais l'impression que son manoir était même le plus étrange que la terre n'ait jamais porté. Il fut d'abord étonné d'apercevoir, contre le mur latéral droit de la pièce rectangulaire me faisant office de lieu de travail, une gigantesque bibliothèque en bois datant du XIXe siècle. Cet endroit étant aussi mon repère, je m'y attardais souvent jusqu'à une heure assez tardive afin de lire. D'ailleurs, les étagères composant ce meuble si spécial et important à mes yeux étaient emplies de romans policiers tels que Sherlock Holmes, écrit par Arthur Conan Doyle, ou encore Le mystère de la chambre jaune, rédigé par Gaston Leroux. Lorsqu'il eut récupéré ses esprits, après un certain temps tout de même, il me conta son problème.
La veille, quand M. Montelier était rentré chez lui, son fils, âgé d'une dizaine d'années, avait disparu. Après l'avoir cherché partout, c'est-à-dire dans les quartiers alentours et dans les moindres recoins du manoir, il avait attendu toute la journée avant d'alerter les autorités qui débordaient par des cas que j'ignore. L'avait envoyé vers moi. Dans son immense détresse, il ne put rien me dire d'autre. Le silence s'installa alors entre nous et je pus entendre les battements de cœur du vieil homme. La tension régnant dans mon bureau devenant palpable, je suis proposé de l'accompagner dans sa demeure afin de mener l'enquête.
20 minutes plus tard, M. Montelier sortit son trousseau de clés de la poche de sa veste noire et ouvrit la porte d'entrée du manoir lugubre, qui grinça d'une manière étrange, formant un son que je ne saurais définir, excepté le fait qu'il était d'une nature sinistre et qu'il avait la puissance d'un cri de loup un soir de lune resplendissante. Mais cela ne sembla en aucun cas surprendre mon client, qui ne remarqua pas ma frustration et entra. Quant à moi, je restai là, sur le perron, immobile, afin de regarder attentivement la façade de la bâtisse. Elle était obscure, endommagée et formait un contraste avec les vives maisons alentour entourées de parterres de fleurs et de grands arbres luxuriants. Ici, rien ne poussait, mis à part quelques herbes desséchées ou plantes grimpantes. Son toit d'un violet étrange, macabre et indéfinissable était couvert d'une couche épaisse de mousse verdâtre, comme si l'endroit demeurait abandonné depuis de nombreuses décennies. Enfin, j'entrai, et à chacun de mes pas, une impression horrible me faisait trembler, car je crus que le sol cédait sous mon poids. À nouveau, le propriétaire du manoir ne remarqua rien. Quand mes yeux se furent enfin habitués à l'obscurité dans laquelle était plongée la demeure, M. Montelier alluma la lumière, révélant un long couloir au mur peint d'un rouge funeste et terne, tel du sang séché par le temps. À ma grande surprise, cela ne me fit aucune sensation, comme si je n'étais plus moi-même. En revanche, un mauvais pressentiment à vous glacer les os s'empara de tout mon être jusqu'au plus profond de mes membres. Monsieur Montelier me conduisit jusqu'à la chambre de son fils, c'est-à-dire une petite pièce rectangulaire ne possédant qu'une seule fenêtre donnant sur le sombre jardin. Il y avait, au milieu de la salle, une petite table en bois lourd où, grâce à ma vue aguerrie suite à mes nombreuses précédentes enquêtes, je repérai immédiatement une boîte de médicaments qui se révéla être un puissant traitement à long terme ayant pour objectif de soigner une grave et inhabituelle maladie vous plongeant au fur et à mesure de son avancée dans une dépression sans fin où la vie ne semblait plus qu'un grand trou noir et imprévisible que la tristesse emplissait à longueur de temps. Je devinais ce traitement comme appartenant au fils de mon client, un jeune garçon nommé Maxime Montelier. Son père m'apprit alors que la maladie, due au traumatisme de l'enfant quelque temps auparavant, lorsque sa mère était décédée, était en cours de guérison. Était-ce une fugue, une disparition volontaire, ou alors mon enquête était-elle bien plus sombre, complexe et mystérieuse que cela? M'arrachant à mes pensées, Jacques Montelier m'escorta à travers toute la maison, mais je ne remarquai rien d'anormal et retournai donc à mon bureau, pressé de réfléchir au calme et dans un lieu quelque peu plus rassurant et apaisant.
Dès que je fus de retour dans mon lieu de travail, je me couchai exténué, réfléchi en observant le plafond blanc. C'était si bon de se sentir à sa place. Cette pensée me rémémora alors les moments passés au manoir, lieu où je ne m'étais aucunement senti à ma place. J'ouvris les yeux, il était 22 heures et seule la pleine lune éclairait les rues plongées dans la pénombre, je frissonnais car, me rendant à pied où je me doutais qu'un détail m'avait échappé, tout mon corps était victime du froid glacial baignant la ville. Enfin, j'aperçus le manoir pour lequel je m'étais déplacé en cette heure tardive où personne ne sortait.
À peine eus-je effleuré la porte que celle-ci s'ouvrit, comme si un esprit avait déplacé le ventail depuis l'intérieur. Je me figeai durant quelques instants, m'attendant à voir Jacques Montelier derrière le battant, mais rien ne se produisit. Je pénétrai alors à l'intérieur de la demeure, et la porte se referma sur moi aussi brusquement et mystérieusement qu'elle ne s'était ouverte. Que se passait-il ? Je l'ignorais.
Je me dirigeai alors vers la pièce qui m'avait interpellé un peu plus d'une heure auparavant. La température se rétrogradant à chaque mouvement que je faisais, ou du moins j'en eus l'impression, comme si mon sang se glaçait. Une fois parvenu dans la salle, j'aperçus, comme lors de l'après-midi, le verre à côté duquel se tenait le médicament. Soudain, je crus que la pastille médicale s'élevait dans les airs et tombait avec un bruit désormais inquiétant dans le verre où elle commença à se dissoudre au contact du liquide. Je n'aurais jamais cru jusqu'à aujourd'hui ce que je verrai dans quelques instants. Aussi ne bougeai-je durant une dizaine de secondes, pétrifié par l'angoisse grandissant en mon fort intérieur.
Tout à coup, une lueur blanche telle une bougie presque translucide illumina le verre et une silhouette féminine en sortit, me faisant penser à un ange ou à une divinité de la neige. Mais lorsqu'elle se retourna vers moi et que je vis son visage, je crus voir en elle Maxime Montelier. Je compris alors instantanément qu'il s'agissait de la défunte épouse de Jacques, mon client. Celle-ci, le regard embué de larmes et dénué d'expression, me fixa. Ce fut à ce moment précis que je récupérai tout contrôle sur mes membres tremblants tels une feuille. La femme m'apprit, me prenant sûrement pour une apeurée sans raison, comme si aucun fantôme ne se dressait en face de moi, qu'elle se nommait Amélia et qu'elle était décédée de la même maladie que celle dont était victime son fils.
Un frisson me parcourut et il me sembla que mon regard se brouillait. Amélia me demanda alors de rédiger une lettre expliquant à son mari la raison de la disparition de Maxime. Et je me demandais alors comment je ne pourrais écrire une lettre expliquant quelque chose que je ne savais point. En réalité, elle avait été conduite par sa mère dans le monde où elle vivait désormais, car je ne sais quel autre terme utiliser afin de guérir les médicaments ayant un effet momentané. Je compris donc que sans l'intervention de sa mère, Maxime serait mort lui aussi. Je crus alors éprouver de la compassion pour mon client vivant seul et ayant pour l'instant en tout cas perdu sa famille, ce qu'il aimait.
J'aurais été possédée par la femme à l'allure d'ange et ressemblante à la neige que je n'aurais agi différemment. Prenant en main le stylo qu'Amélia m'avait confié précédemment, j'écrivis ce que je voyais apparaître en lettres d'or dans mon esprit, comme si nos deux âmes étaient reliées, comme si nous lisions dans les pensées l'une de l'autre. J'arrivais à la fin de mon récit lorsqu'un horrible mal de tête me submergea. Je tentais de résister à la tentation qui me poussait à regarder Amélia, car cette dernière ne le souhaitait pas, je le savais intérieurement, sans pouvoir en déterminer la raison. Épuisée et faible, je finis par céder. Tout à coup, des sursauts parcoururent mon être tout entier et une sensation d'horreur naquit en moi. Amélia faisait chauffer la cire afin de cacher l'enveloppe destinée à son mari, sans se préoccuper une seule et unique seconde de moi. Mais le plus fantastique, inexplicable ou encore incompréhensif fut le fait que de longs filaments blancs comme la neige ou tels les nuages s'échappaient du corps fantomatique de l'ange pour parvenir jusqu'au mien, et inversement.
Je clignais des yeux bon nombre de fois, ne parvenant pas à croire ce que je percevais, puis pressé que la soirée se termine et que je me réveille en comprenant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve ou un cauchemar, je continuais à écrire la dernière phrase, celle que j'avais cessé de rédiger pour apercevoir la scène que je me forçais de vraiment oublier. Ce fut la seule chose que je fus capable de faire. Mon esprit confus ne se rappelant plus de rien, je n'étais plus moi, la détective rationnelle, mais une personne en proie à des aberrations de défunt. Mon stylo, du moins ce que je ressentais, dansait sur le papier guidé par le geste souple de mon poignet. Et qui ça, le dernier mot. Soudain, je m'évanouis de stupeur car Maxime apparut à son tour, comme par magie, telle une flamme s'animant en une fraction de seconde avant de se précipiter dans les bras de sa mère.
Le lendemain, je me réveillais, couché sur mon bureau exactement dans la même position que la veille, et sursautais telle une personne prise en flagrant délit, car Jacques Montelier se trouvait, debout, sur le seuil. Il n'attendit aucunement que je l'invite à s'asseoir sur le fauteuil me faisant face pour s'y laisser choir et se prendre la tête entre ses mains.
Surprise, je me demandais des explications sur son chagrin. En guise de réponse, il sortit de sa poche une enveloppe. Hormis ce détail, j'eus le sentiment que l'on était la veille. Mon impression se confirma lorsque je questionnai mon client sur la date du jour en m'excusant pour la banalité de ma question. Cette enveloppe achetée, je la reconnus, c'était celle que, apeuré, j'avais écrit la veille ou alors, car je n'avais plus aucune notion du temps aujourd'hui. En tout cas, j'étais uniquement éclairé par la faible lueur de la lune et par la clarté que dégageait le corps ou l'esprit d'Amélia. Je fis mine de la lire et découvris un trait que j'avais sans aucun doute esquissé en m'évanouissant, compatissant. Je rassurerai le père de Maxime que son fils serait de retour en prétextant que de nombreux indices me le faisaient penser.
Comment est-ce possible ? S'interrogea mon client. Vous avez à peine lu la lettre. Est-il parti, rassuré, m'accordant toute sa confiance et m'assurant qu'il attendrait le retour de son fils. De mon côté, j'espérais de tout cœur qu'Amélia avait dit la vérité. Je le regardais s'éloigner, un sourire triste au coin des lèvres. L'esprit confus, je cherchais une explication, mais encore aujourd'hui, à l'heure où je compte cet événement étrange où personne n'aura jamais raison de me croire, je n'en dénombrais aucune.